pour ta présence, plus près de toi, tout près de toi. Et merci de nous rappeler qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Et quand nous le verrons, nous lui serons rendus semblables. Oui, nous te verrons tel que tu es, Seigneur Jésus. Toi qui nous as tant aimés, enfin, nous contemplerons avec les yeux de nos corps glorifiés le visage de l'amour, le visage de la tendresse. Le visage des compassions infinies, le visage de ce Père au cœur de mer. Nous te louons, nous te bénissons et nous te demandons de circoncire nos oreilles et nos cœurs, afin que nous ne soyons pas des gens qui ont des oreilles et qui n'entendent pas, ou des gens qui ont un cœur, mais un cœur qui ne se brise pas devant toi. Amène-nous à ce véritable brisement. Amène-nous à cette totale humiliation sans laquelle tu ne peux pas intervenir et où tu dois nous résister. Ô Seigneur Jésus, opère ce miracle afin que nous ne nous habituions pas à avoir des retraites trimestrielles ou mensuel, mais que nous comprenions que tu nous donnes un temps où tu voulais nous visiter, un temps qui ne reviendra peut-être pas parce que tu nous conduiras ailleurs, et c'est pourquoi nous te demandons que nous ne soyons pas comme ces gens de Jérusalem qui ne connurent pas le temps où ils étaient visités. Que personne ici ne soit rendu plus coupable après ces retraites qu'il ne l'était avant. Car c'est toi qui as dit au Jésus: si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient point péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour le péché. Seigneur Jésus, donne-nous de ne pas savoir simplement qu'une vocation nous conduit à la révélation de la sainteté qu'a connue Ésaïe. Donne-nous de ne pas savoir seulement qu'une vocation nous conduit à cette justice qui a été révélée à Jérémie. Donne-nous de ne pas savoir seulement qu'une vocation nous conduit à cette puissance qu'a connue Ézéchiel et qui l'a conduit jour après jour, droit devant lui, là où il devait aller pour témoigner. Donne-nous de ne pas être des gens qui savent ces choses, mais donne-nous d'être de ceux qui les pratiquent, qui vivent dans la sainteté, dans la justice.
et qui souffre par la puissance de Dieu. Donne gloire à ton nom, Seigneur, à ton nom seul. Donne gloire. Amen. Dans les derniers moments de cette retraite qui est la dernière de cette année, nous avions pensé qu'avant de terminer par le culte d'adoration, nous dirions quelques mots sur les chapitres 2 et 3 de d'Ézéchiel qui complète cette vocation du prophète, et qu'ensuite nous pourrions faire tout simplement une synthèse de ces trois vocations prophétiques, celle d'Ésaïe, celle de Jérémie et celle d'Ézéchiel, de les comparer, de voir ce qu'elles ont de commun et aussi ce qui les différencie selon les ministères qui leur ont été donnés par le Seigneur. Cette synthèse, nous vous laisserons la faire vous-même dans la suite de cette retraite, dans ces jours qui sont des jours qu'on appelle de fête dans le monde, mais qui pourraient peut-être devenir pour nous des jours de jeûne et de deuil, ce qui amènerait peut-être aussi le Seigneur à se pencher davantage sur chacune de nos vies pour nous libérer de certains obstacles et pour nous rendre vraiment plus conformes à ses désirs, à ses desseins, afin que nous devenions ici-bas des hommes et des femmes qui vivent à la louange de la gloire du Seigneur, des hommes et des femmes qui ne clochent plus des deux côtés, comme nous l'avons vu dans notre dernière retraite, mais qui ont pris position et qui savent ce qu'est le monde et qui savent aussi ce qu'est l'amour du Père. L'amour du Père qui n'est pas un sentiment mais qui est quelqu'un. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, et cet amour du Père, c'est son Fils. Alors que le Seigneur nous donne d'être désormais de ces vases qui ne manifestent plus que la vie de Jésus, et que nous ne vivions pas dans ce terrible adultère que dénonce l'apôtre Jacques, celui qui veut être ami du monde, se constitue ennemi de Dieu. Et croyez-le, vous n'aurez jamais de puissance et de force dans le témoignage si vous pouvez croire un instant encore qu'on peut servir de maître. C'est l'absolu. Et le Seigneur recherche des hommes et des femmes dont le cœur est entièrement engagé pour lui. J'aurais pu évidemment ajouter ce matin bien des choses à cette vision de gloire. On sait qu'au cours de l'histoire de l'Église, Les théologiens des premiers siècles ont vu aussi dans les quatre animaux les quatre évangélistes, mais ils ne sont pas tous d'accord au sujet de l'attribution de ces animaux à tel ou tel évangéliste. Ainsi, nous savons que Scofield et d'autres voient dans le lion l'évangile de Matthieu, car le lion est aussi le signe de la royauté, et en Matthieu on y voit le Seigneur comme roi. Dans Marc, qui nous est présenté comme le serviteur de l'Éternel, eh bien, on verrait comme animal le bœuf qui laboure, qui sert dans ce monde. Et puis, dans la figure d'homme, on y verrait l'évangile de Luc. Luc qui nous présente Jésus dans son humanité comme le Fils de l'homme. Et enfin, dans l'aigle, on y a vu l'apôtre Jean qui nous présente la divinité essentielle de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout cela peut être dit, tout cela peut être intéressant, mais au fond, ça n'ajoute rien à ce que l'Esprit veut vraiment nous dire, sinon que vous pouvez lier tout cela, oui, imprégnez-vous de ces évangiles et alors vous vivrez comme le Seigneur le désire. Nous étions tombés, je le pense, sur notre face avant midi en ayant découvert que ce qu'Ézéchiel a vu, c'était la gloire de l'Éternel, la gloire du Seigneur. C'était une image, verset 28, de la gloire de l'Éternel. Et à cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Donc, la vocation d'Ézéchiel est très différente de celle de Jérémie, auquel le Seigneur a simplement communiqué sa parole. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie sans qu'il soit question d'une vision. Ici, il est question d'une vision, ce qui nous fait penser davantage à celle qu'Ésaïe a eue. Et cette vision, elle n'est pas donnée à un prophète qui se trouve à Jérusalem, où le temple est encore là, au moment où Ézéchiel a la vision, mais elle est donnée au sein du paganisme, à un déporté qui est choisi par Dieu, la main du Seigneur. Et vous pourriez faire une étude sur ce livre d'Ézéchiel et retrouver cette main du Seigneur qui tombe sur lui. C'est donc le moment où réellement le Seigneur, au fond, agit en nous et nous fait entrer dans un état justement qui n'est plus compréhensible pour les hommes, un peu comme saint Paul qui dit, eh bien, je connais un homme en Christ, mais je ne sais pas si c'est dans le corps ou hors du corps qu'il a eu cette révélation, mais tout à coup, cet homme a été transporté au troisième ciel. Et là, il a entendu des choses ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. La main du Seigneur est tombée sur Ézéchiel. Et il va recevoir non seulement une vision extraordinaire de la gloire du Seigneur, mais aussi la force dont il aura besoin pour accomplir son ministère. Alors, maintenant qu'il a vu le Seigneur, il est par terre. Et toute personne qui a le privilège d'entrer dans la présence du Seigneur, elle s'effondre. Vous pouvez reprendre l'écriture depuis les premières pages jusqu'aux dernières. Les plus intimes du Seigneur, quand ils ont été dans la présence de Dieu, se sont effondrés, que ce soit Moïse, que ce soit Job, que ce soit Ésaïe, que ce soit Daniel, que ce soit Ézéchiel, que ce soit l'apôtre Pierre, ou que ce soit encore l'apôtre Jean, qui était pourtant un intime de Jésus. Quand je le vis, je tombais là comme mort. Et alors, il faut que le Seigneur nous relève. Il me dit, nous prenons le chapitre 2, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Mais qu'est-ce qui se passe? C'est dès qu'il m'eut adressé ces mots, à ce moment-là, cette parole du Seigneur, qui est, comme le disait Jésus, esprit et vie, le pénètre. L'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être maintenus debout. Et les apôtres avaient eux-mêmes compris qu'ils ne pouvaient pas rendre réellement témoignage sans avoir reçu la promesse du Père. Et ils l'ont attendu et ils l'ont reçu. Nous savons que la Pentecôte est un événement historique et qui a eu lieu 50 jours après la Pâque et que, comme il y a eu un Vendredi Saint, comme il y a eu Pâque, une résurrection et que Jésus ne meurt plus, il y a Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit qui a été donné pour fonder l'Église. Il n'est pas question, comme on l'entend si souvent, de vouloir refaire nous-mêmes une nouvelle Pentecôte. Il y en aura une qui sera totale, mais qui est réservée pour un autre temps. Nous sommes à la fin du temps de l'Église et l'Écriture nous montre que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un temps de puissance extraordinaire au-devant duquel on va, c'est un temps de diminution de la foi, c'est Jésus qui l'a dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» C'est un temps de diminution de l'espérance, même s'il y a des théologiens de l'espérance. On ne croit pas réellement au retour imminent du Seigneur Jésus. Où est la promesse de sa venue? Et c'est aussi un temps où l'amour de plusieurs se refroidira. Pour quelle raison? Parce que l'iniquité prévaudra sur la terre et qu'on ne saura plus faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. De sorte que, quant à la collectivité, nous ne devons pas nous attendre à quelque chose de bien spectaculaire. Le monde va au-devant d'un jugement effroyable
qui sera à la mesure de ses péchés, et l'Église va aussi au-devant d'une grande épuration, car le jugement de Dieu commence par sa maison. Et s'il y a tant de pays qui ont déjà connu ou qui connaissent cette épuration, eh bien, souvenons-nous qu'au lieu de publier des bulletins de victoire sur nos petits réveils de groupe ou même de province ou même de pays, de continent, eh bien, qu'il nous soit donné de nous humilier devant le Seigneur et de nous rendre compte que le témoignage dans ces jours mauvais est essentiellement un témoignage individuel. Et c'est dans la mesure où le témoignage est individuel qu'il y a réveil dans la collectivité. Nous ne sommes pas de ceux qui disent que le Seigneur ne peut pas réveiller une collectivité, mais pour que cette collectivité soit vraiment réveillée, et vaille la peine qu'on appelle cela un réveil, il faut que les individus qui la composent soient réellement conséquents et au pied du Seigneur, réellement membres du corps du Christ, c'est-à-dire des gens qui sont dirigés par une tête qui est céleste, un gouvernement qui est céleste, qui ne s'inspire plus des méthodes du monde pour évangéliser, parce que tel moyen réussi dans le monde, on va l'employer nous aussi, et c'est ainsi qu'on corrompt l'Église en faisant entrer toutes les méthodes du monde dans l'Église et dans notre manière aussi de prêcher. Nous devons revenir à la chambre haute et être là dans le silence, à l'écoute de la parole du Seigneur, et le Seigneur sera glorifié. Parce que sur le mont, ce qui vient, mes frères et sœurs, c'est une énergie d'erreur, c'est une puissance diabolique, mais une puissance qui va se manifester justement par une espèce de réveil religieux, par une recrudescence de miracles. Et les gens aujourd'hui veulent des miracles. Ils veulent de la puissance. Mais vous savez bien que c'est dangereux d'être des manieurs de puissance, parce que quand le Seigneur avait donné de la puissance à ses disciples, Jacques et Jean voulaient tout de suite l'employer pour anéantir le bourg des Samaritains, parce que les Samaritains n'avaient pas reçu le Seigneur. Seigneur, ferons-nous descendre ceux du ciel? Non, faites attention aux manières de puissance. Gardez-vous de vous croire puissants, soyez simplement dans la main de Dieu les instruments de son cœur, dans sa main. Et si vous êtes debout, souvenez-vous que vous l'êtes par l'Esprit du Seigneur, et demandez-lui simplement et humblement la fidélité d'être son témoin jusqu'à la mort, c'est-à-dire d'accepter aussi l'idée du martyr, car avant sa venue, il est possible que plusieurs parmi nous doivent passer aussi par ce chemin-là. Nous croyons que Dieu nous en donnera la force, mais il faut que tout cela soit déjà dans notre programme, que cela ait été pesé, que cela ait été envisagé, et il faut que nous marchions déjà dans le chemin de la souffrance pour pouvoir avoir une plus grande souffrance, sinon ce sera le reniement comme Pierre. Si nous ne sommes pas des habitués à la souffrance, nous ne pourrons pas avoir plus de souffrance. Vous allez dire, mais vous nous faites peur. Non, je ne vous fais pas peur. Je voudrais simplement vous enlever peut-être certaines illusions trop répandues dans bien des milieux et par tous les mass-médias d'aujourd'hui,
pour nous montrer enfin ce qu'on est en train de faire. Nous sommes à l'âge d'or de l'évangélisation. D'ici l'an 2000, nous aurons fait de grandes choses. C'est quelque chose d'effroyable. Ce manque de discernement spirituel. Et il faut que ce soit des hommes du monde, des athées ou des scientistes qui disent, qui se font sonner la trompette pour montrer ce qui vient sur le monde. Et pourtant, même si nous savons que ces choses doivent arriver, mais des choses terribles dans ces jours de la fin, c'est le moment pour nous de relever la tête, non pas de perdre courage, mais de relever la tête. Et c'est le moment d'être vraiment unis et de ne plus nous mitrailler les uns les autres. Nous sommes si peu pour témoigner de l'amour pour le Seigneur, que quand nous sommes ensemble, nous devrions nous manifester cette unité vraiment hors cadre. Cette unité, nous sommes unis dans le Seigneur, dans le CEP, et un sarment va peut-être un peu à gauche, un autre un peu à droite. C'est pas cela qui compte, c'est pas l'uniformité, ce n'est pas l'unité fagot, les sarments détachés, coupés, qui ont toute la même longueur et qui sont liés par une doctrine, c'est pas cela l'unité, l'unité faisceau de Mussolini et compagnie, l'unité dans le CEP, l'unité dans la vie, l'unité dans la liberté. Et Dieu connaît ceux qui sont siens aussi bien dans le catholicisme que dans l'église orthodoxe que dans le protestantisme. Dieu connaît ses élus parmi les païens et croyez-le, il n'en manquera aucun quand lui viendra et les rassemblera sur les nuées du ciel. Mais ce n'est pas les systèmes religieux que le Seigneur va prendre, ce sont les âmes. Alors, tout en ayant un témoignage peut-être dans nos communautés, eh bien que nous soyons délivrés de tout esprit sectaire et que dans la main du Seigneur, nous puissions être employés. Et que quand le Seigneur nous rassemble, qu'il nous donne, justement même si nous n'avons pas de nom, de constituer un véritable témoignage, une véritable communauté, ce qu'est réellement l'Église, les deux ou trois qui sont assemblés au nom de Jésus. Tous les théologiens soulignent que c'est ce texte de Matthieu 18, 20 qui est la base de la vraie communion ecclésiale. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ce n'est pas l'ancienneté qui fait la vraie Église. Ce n'est pas le nombre qui fait la vraie Église. C'est celui qui est le centre de votre rassemblement, la personne du Seigneur Jésus, dont vous êtes devenu membre de son corps par votre adhésion du cœur total à sa parole, et qui vous a fait entrer par la puissance de son esprit dans sa mort, où vous avez été immergé, ce que signifiait le baptême, et dans sa résurrection, cette vie nouvelle, et qui nous transporte déjà quant à nos affections, là où le Seigneur se trouve, parce que ressuscité, il nous a ressuscité avec lui et nous a placé déjà avec lui sur le trône. Éphésiens chapitre 2, l'enlèvement spirituel des vrais croyants a déjà eu lieu en quelque sorte. L'objet de nos affections est dans le ciel et nous sommes déjà dans le ciel, concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, et si nous sommes encore sur la terre pour un témoignage, c'est parce que dans le baptême du Saint-Esprit, il nous a rendus à la terre, mais équipés de toutes les armes de Dieu, pour que nous puissions témoigner et lutter avec les armes de Dieu contre toutes les puissances spirituelles de méchanceté qui s'opposent à l'établissement du règne et du royaume du Seigneur Jésus. Et alors, ce qui nous est donné dans la grâce, c'est de pouvoir, quand nous nous retrouvons, quand nous sommes ensemble, répondre au désir du cœur du Seigneur qui a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et nous sommes mis en état de pouvoir répondre à ce désir. Bien sûr que quand nous regardons à nous-mêmes, nous sommes toujours indignes de nous approcher de la table sainte, mais quand nous regardons à ce que le Seigneur a fait, eh bien, nous pouvons avoir confiance. Il a tout fait pour nous sauver et pour nous purifier, et nous purifier aussi quotidiennement dans la marche de toute faute que nous pouvons encore commettre, quand nous savons nous en juger. Mais si nous ne nous en jugeons pas, ou si nous continuons de conserver des habitudes que le Seigneur réprouve, ou une marche, ou des choses qui ne sont pas tolérées par le Seigneur, alors chaque fois que nous nous approchons de la table du Seigneur, nous mangeons et buvons un jugement contre nous-mêmes, et nous ne distinguons pas tout ce corps de Christ qui est l'ensemble de tous les rachetés, et nous ne sommes pas vraiment dans une unité profonde. La communion, ce n'est pas une manifestation de notre union ou de notre fraternité, c'est l'expression que nous sommes un, que l'unité n'est pas à faire, n'est pas à créer, mais que l'unité est à manifester par le lien de la paix. Alors, laissons-nous enseigner par la parole, laissons-nous saisir par le Saint-Esprit qui nous maintient debout et qui nous parle, verset 3, « Fils de l'homme ». Oui, vous trouvez 80 fois cette expression « Fils de l'homme ». Dans le livre d'Ézéchiel, on trouve aussi une fois dans le livre de Daniel. Et ici, fils de l'homme, c'est pas le nom directement que Jésus se donnait, parce qu'on n'a jamais appelé Jésus le fils de l'homme. C'est le nom que lui s'est donné dans les évangiles. Il s'appelait le fils de l'homme, en reprenant un texte du prophète Daniel. Mais ici, fils de l'homme, c'est simplement pour montrer que Ézéchiel est un humain tout faible, un fils vraiment de l'homme, comme vous et moi. Élie était un homme aux mêmes passions que nous. Eh bien, vous êtes des fils d'hommes, n'est-ce pas? Nous sommes tous de ces fils-là. Nous sommes de pauvres humains devant la grandeur du divin, n'est-ce pas? Mais le divin veut bien nous rencontrer. C'est quelque chose de merveilleux. Voilà Mahanaïm. Le divin veut bien nous rencontrer. Fils de l'homme, je t'envoie. Oh, mes amis, personne ne s'envoie. Personne ne s'envoie. Je t'envoie. Et bien sûr, on peut avoir un comité, on peut avoir toutes sortes de choses. Mais souvenez-vous bien que ce n'est pas votre comité qui vous envoie, mais que vous devez être envoyé par le Seigneur. Je t'envoie. Permis de conduire pour théologien. Ça a été le thème, je vous l'ai rappelé dans une autre traite, hein, le thème d'un grand colloque œcuménique en Angleterre au début de cette année. Et on a demandé à ces théologiens catholiques, orthodoxes ou protestants ou même évangéliques ce qui les autorisait à prêcher. Et je vous ai rappelé que le père Congar, quand on lui a posé la question, il a dit « Mais je ne me suis jamais posé la question. » Et c'était comme tout un réveil pour lui. Au fond, mais qui est-ce qui vous autorise à prêcher, à parler de Dieu? Comment est-ce qu'on est arrivé à cela? Notre vocation, hein, ben c'est là qu'il faut savoir. Si on a réellement une vocation, ou bien si si on est devenu pasteur ou si on est devenu prêtre, parce que au fond ça faisait bien dans la famille, puis qu'on nous a donné cette possibilité, ou bien est-ce que c'est réellement par un appel du Seigneur? Sans ça, eh bien, on devient, comme me le disait un prêtre, malheureusement, nous devenons des fonctionnaires. Et alors, nous baptisons, nous marions et nous enterrons, et puis nous nous occupons d'œuvres sociales, et nous sommes dans tous les comités possibles. Et alors, on ne peut plus s'arrêter, parce qu'on a tellement de comités qu'on ne peut plus s'arrêter vers le blessé sur le chemin, parce que on a dans sa poche présence indispensable. Et vous comprenez, eh bien, qu'un autre s'en occupe. Alors le lévite, qui connaît bien la parole pourtant, et le sacrificateur passe, et il faudra que ce soit un samaritain qui s'arrête pour ramasser le blessé. Mais nous, on avait une réunion évangélique, peut-être. On avait un comité présence indispensable. Bon, vous allez dire, il va nous foutre encore plus de pagaille qu'avant dans nos rencontres. C'est pas du tout cela, chers amis. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre ce que l'Esprit veut nous dire. Il y a des priorités. Et chacune de nos journées, nous nous proposons certaines choses en disant au Seigneur, maintenant, dispose. Et si ça ne se passe pas comme nous l'avions prévu, au lieu de nous heurter comme ça contre la volonté de Dieu, on dit, Seigneur, je te bénis. Et on se met tout de suite avec lui. Et il n'y a pas ce heurt. Parce qu'on voit que le Seigneur a vu mieux que nous. On se propose toute chose autant qu'on le peut, et puis on lui dit, dispose. Mais quand je vois comment maintenant on nous dit, oh mais moi, vous savez, je suis pris 4 ans à l'avance, j'ai un programme de 4 ans à l'avance. Quelle folie! Ils savent qu'ils vont vivre encore 4 ans. On a planifié, oh c'est mon planifié, planifié, planifié. Eh bien, planifions. Bien sûr qu'il faut certains plans. Mais je crois que le Seigneur va faire des choses et nous amener dans des circonstances où nous serons obligés de devenir vraiment évangéliques, c'est-à-dire des gens qui doivent vivre, comment ? Au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. Demain sera en souci de lui-même. Alors que nous, nous planifions, puis après, nous avons des soucis terribles pour nos planifications. Parce qu'on a tout un avenir qu'on s'est fabriqué, et puis ça n'a pas même du tout se passer comme cela, et on se sera fait des cheveux blancs pour des choses qui n'existeront même pas. Ou que nous n'aurons pas besoin de faire. Si nous nous libérions de toutes nos entreprises pour accomplir simplement ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse, nous serions beaucoup moins fatigués. Parce que le Seigneur n'est pas le Pharaon qui nous demande de faire davantage en nous enlevant les moyens, la possibilité. Dieu est un bon Père et il donne la force pour ce qu'il nous ordonne. Il va nous donner la force. C'est ce que vous devez trouver dans cet Ézéchiel. On va aller un peu plus vite. Hein. Il me dit, fils d'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles. Littéralement, il est dit païens, qui se sont révoltés contre moi. Oui, c'était des juifs, mais ils étaient devenus païens, comme on nous dit très facilement. Vous savez, maintenant, notre christianisme, il y a beaucoup de paganisme. J'ai entendu dans cette salle même, il y a quelques années, notre christianisme doit être épuré de tout le paganisme, parce que dans nos églises, on a introduit eh bien, des coutumes qui sont d'origine païenne. Et on le sait, on le dit, les théologiens le disent. Et mais on continue quand même. Mais ça plaît au monde. Les gens sont habitués, il ne faut pas les déranger. Alors on continue, et puis on s'enfonce toujours plus. Ce sont ces quatre des enfants à la face impudente, au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras. Vous voyez, alors, il est averti que ça ne sera pas facile, son ministère. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Donc, ce n'est pas la parole d'Ézéchiel, ni son talent qui compteront. C'est ce que Dieu lui dit. Et ce n'est pas les résultats qui doivent encourager Ézéchiel et se dire, ben, voilà, hein, j'ai vraiment apporté la parole de Dieu parce qu'il y a des résultats. C'est pas ça. Ne regardez jamais à cela, à ce que vous pouvez penser, vos résultats. D'abord, s'il y a des résultats, c'est jamais les vôtres. Hein? C'est pas vous qui faites pousser la semence. Vous mettez la semence, mais c'est Dieu qui l'a fait germer. Alors vous donnez toute gloire au Seigneur et vous regardez au Seigneur pour faire lever la semence. C'est plus votre affaire, ça. Notre affaire à nous, c'est de semer. C'est de labourer, peut-être à la sueur de notre visage, et de travailler, mais le reste, c'est le Seigneur. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille rebelle. Le Seigneur le sait, mais ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas entendu, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été éclairés. Mais vous savez, il ne suffit pas d'avoir été éclairé, il ne suffit pas d'avoir même goûté du don de l'Esprit, parce que quand on est dans une séance comme celle-là, le Saint-Esprit opère, on est rendu participant au Saint-Esprit, mais ce n'est pas encore une conversion. Et ces conversions qu'on fait à la chaîne, ce travail à la chaîne que l'on veut faire maintenant pour que ça aille plus vite, pour qu'on puisse continuer nos grandes missions. Mais ce n'est pas cela que le Seigneur nous demande. Mais vous direz, mais alors, vous dites quelque chose contre quelqu'un. Non, je dis contre personne. Mais je vous dis, individuellement, vous êtes responsable devant le Seigneur. Moi, je n'ai pas à juger les autres et je serai jugé pour moi-même. Mais ce que j'ai à faire, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Ne les crains pas et ne crains pas leurs discours. Parce qu'il y en aura des discours. On vous opposera des discours. On vous donnera toute espèce de bonnes raisons pour justifier des choses qui sont absolument fausses. Et que vous savez fausses. Quoi que tu aies auprès de toi des ronces et des épines. Vous voyez quels sont les caractères des gens avec lesquels, quelquefois, il faut vivre. Des ronces, des épines. Et même des scorpions, ils parlent par derrière, ils nous piquent par derrière, ils démolissent tout un témoignage. Ne crains pas leur discours, ne t'effraie pas de leur visage. Ah, ces visages, on prend des visages pour nous effrayer. Regardez son visage, le visage du Seigneur. Mais quand vous regardez le visage des fois, même des chrétiens, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, ils font des têtes impossibles, comme s'ils voulaient nous montrer la tête qu'on aura dans les tourments éternels, en grinçant des dents. Mais eux-mêmes prennent ces expressions de torturés, alors que nous devons regarder le Seigneur. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. On est comme illuminé. Alors, regardez toujours au Seigneur. C'est individuel, ça, n'est-ce pas? Et ne cherchez plus des modèles dans votre congrégation. Regardez le modèle et vous deviendrez un modèle. Et vous ne serez plus déçus. Tu leur diras mes paroles, verset 7, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, parce que c'est ça. Tu pourrais tout aussi bien être rebelle. Puisque je te dis qu'ils sont rebelles, tu pourrais toi aussi devenir un rebelle. Alors non, ne sois pas rebelle. Ouvre ta bouche. Alors, ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. Il va nous donner sa parole. Mais il faut la manger. Et manger, c'est assimiler la parole. C'est pas avoir fait une lecture, notre lecture quotidienne de quelques versets, notre petite méditation, et on repasse là, oui, dans notre cœur. Mais c'est réellement manger cette parole, l'assimiler pour qu'elle influence notre vie morale, notre comportement. Je regardais, il a eu d'abord la vision de la gloire, mais maintenant qu'est-ce qu'il voit? Il voit une main étendue vers lui et qui tenait un livre en rouleau. Maintenant, voilà que il va recevoir en lui des paroles qui se trouvent sur un livre en rouleau. Et il le déploya devant moi et il était écrit au-dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes, des gémissements, il était écrit. Au fond, c'est toutes les prophéties de la première partie du ministère d'Ézéchiel qui doit reprendre, qui doit exhorter, qui doit censurer. C'est un témoignage qui sera difficile et il doit s'imprégner de cela. Alors, si vous voulez faire la comparaison, prenez Apocalypse chapitre 10, vous verrez le Seigneur descendre du ciel, mettant un pied sur la terre, un pied sur la mer, et tenant un petit livre lui aussi dans sa main, et qui demande la même chose à l'apôtre Jean, de manger le petit livre. Il n'est pas question que la parole de Dieu reste dans les couvertures de votre Bible. Il est question que la parole de Dieu vous soit intérieure et soit fixée dans votre sensibilité afin que toutes vos réactions soient des réactions qui ont une inspiration biblique, c'est-à-dire une inspiration qui vient de la parole de Dieu. L'Esprit Saint devient notre mémoire et nous rappelle telle parole qui devient une lampe à nos pieds, comme le dit le psaume 119, verset 105, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. La combinaison du Saint-Esprit et de la parole, qui sont nos parents spirituels, naît de nouveau, on est né d'eau, c'est-à-dire de l'action de la parole, qui est symbolisée par l'eau, justement dans Ézéchiel, est né de l'Esprit, pris par l'action puissante du Saint-Esprit, nous avons été engendrés par la parole et nous avons été mis dans ce monde de nouveau par la puissance de l'Esprit. Et alors l'Esprit nous rappelle, il sera notre mémoire, l'Esprit Saint vous rappellera les choses que je vous ai dites. Il me dit, fils d'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va. Parle à la maison d'Israël. Alors j'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils d'homme, nourris ton ventre. Il m'a dit, nourris ta tête. Et il faut que ça descende, que ça soit assimilé. Remplis tes entrailles. Voyez-vous, je vous disais que les messages, pour qu'ils portent, il faut qu'on les sente là. Il faut qu'ils soient là et non pas dans la tête. Il faut que vous soyez là, empoignés aux entrailles, et que ce soit aussi jusque dans vos entrailles, que la parole de Dieu pénètre. Remplis tes entrailles de ce rouleau. Et je mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme le miel. Et ça est tellement vrai. Vous pouvez reprendre ces expressions de la douceur du miel dans le psaume 19, dans le psaume 119, et aussi dans l'Apocalypse. Ceux qui ont mangé la parole ont toujours trouvé à cette parole la douceur du miel. Même ces paroles sont plus douces que les rayons de miel. Et le prophète Jérémie, ça a été aussi son secret dans le chapitre 15, il dit, tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées, elles ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. Ta parole m'a fait vivre, disait David. Et il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, ces paroles qui sont maintenant en lui. Car ce n'est point vers un peuple au langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. Vous voyez, il n'est pas question même de la difficulté qu'ont les missionnaires qui sont envoyés au milieu d'un peuple dont ils ne connaissent pas encore la langue et qui doivent faire un immense effort pour apprendre la langue afin de leur communiquer la parole du Seigneur. Non, ce qui nous est demandé n'est pas au-dessus de nos moyens. Il ne nous demande pas de nous adresser à des gens qui ne pourraient pas comprendre notre langage. C'est des gens qui savent très bien notre langue. Nous nous exprimons dans notre langue. Et ce ne sont pas des discours difficiles. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Et c'est vrai cela. Il y a nul n'est prophète dans son pays, et des fois, quand je pense que je vais à Jérusalem, et que là, on me traduit dans plusieurs langues, et que ces gens me disent, pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas en Finlande, pourquoi est-ce que c'est un groupe finlandais, l'autre jour c'est un groupe suédois, venez en Suède, on me donne des adresses, ils nous font entendre ces messages, et pourtant, ils ne les ont entendus que par traduction simultanée. Eh bien, on se dit, mais non, mais... Notre premier témoignage, c'est d'abord, puisque je suis français, eh bien, que je parle d'abord aux Français. Mais quand il y a des miettes qui tombent, eh bien, vous voyez des gens qui viennent de très loin, parce qu'à Jérusalem, on rencontre tous les pays du monde, eh bien, ces gens-là, ils ont faim, ils ont soif d'entendre un message. Et pourtant, ils ne connaissent pas le bonhomme. Ils ne savent pas qui je suis. Je n'ai pas de réputation pour eux. Mais ils ont entendu la parole. Et ils sont touchés par la parole. Il n'est pas question du bonhomme. Il est question de la parole que l'on transmet. Et vous savez, c'est des fois bouleversant quand on sort de l'église messianique, par exemple à Jérusalem, et qu'on voit les gens qui viennent en larmes ou qui essayent de retrouver quelques mots de leur français d'autrefois pour nous exprimer leur reconnaissance et dire combien ils ont été heureux d'avoir pu assister à une prédication de la parole. Oui, si je t'envoyais là, au bout du monde, peut-être qu'ils écouteraient, hein, mais je t'envoie pas là, je t'envoie tout près. La maison d'Israël ne voudra pas t'écouter. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas. Vous avez vu ? Ils ne voudront pas t'écouter parce qu'ils ne veulent pas m'écouter. Ah. On l'a fait une fois, hein, ce texte, dans une autre traite. Celui qui vous écoute, m'écoute. Oh, c'est quelque chose. Celui qui vous écoute, m'écoute. Comme ça peut changer une vie, ça, quand je prends ça au sérieux. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Donc, nous pouvons mettre les âmes en contact avec Dieu. Alors, veillons à ce que nous disons. Sanctifie mes lèvres, Seigneur. La maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. Vous voyez, il y a une confrontation. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Qui sont, qu'il y ait une résistance, qu'on n'est pas des gens qui sont toujours d'accord avec tout. Oui, oui, on est tous gentils, on est tous bien, il n'y a pas de méchants, etc. On est tous des bons et des gentils. Il n'y en a pas comme nous, nous sommes de braves gens. Vous connaissez ça ? Nous sommes de braves gens. C'est des gens qui ont vendu leurs frères. Mais nous sommes de braves gens, qu'ils disent à Joseph. Vous n'êtes pas des espions. Nous sommes de braves gens. Ils ont vendu leurs frères. Et ils disent ça à leurs propres frères qu'ils ont vendus. Ils n'ont pas eu pitié de son angoisse quand ils le descendaient dans la citerne. Nous sommes de braves gens. Je rendrai ton front dur contre comme un diamant plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'ils soient une famille rebelle. Vous voyez, de qui devons-nous avoir la crainte? La crainte du Seigneur, et pas la crainte des hommes. pas la crainte des hommes. Pilate, c'est par crainte des hommes qu'il a livré Jésus pour l'en plaire aux foules. Il a eu peur pour sa réputation à Rome. La crainte des hommes mène à la mort. Et il me dit, fils d'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants, ton peuple. C'est là que nous devons commencer, dans nos maisons. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et alors, l'Esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel, du Dieu, du lieu de sa demeure. Il est comme mis en contact avec l'éternité, car tous les anges sont là, tous les êtres célestes contemplent l'action de Dieu sur la terre. Et c'est dans un coin isolé que Ézéchiel a eu sa vision près du fleuve de Kébar, mais dans un coin isolé. Et maintenant, il doit sortir et aller vers ces gens qui sont proches et qui sont là au bord de ce fleuve. Maintenant, il quitte son isolement, mais il est saisi par l'Esprit et qui l'emmène. Et verset 13, j'entendis le bruit des ailes des animaux frappant l'une contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux, le bruit d'un grand tumulte. On est comme dans Apocalypse 19. L'Esprit m'enleva et m'emporta, j'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Oh, ça avait tout un travail. Il était peut-être irrité et furieux contre lui, car il y a d'abord une lutte contre soi-même, parce que il faut se faire violence dans certains domaines quand nous entendons la parole. Et on est d'abord furieux contre qui ? Contre soi, hein. Parce qu'on se dit, mais que d'années j'ai perdu, je n'ai pas compris. Et puis tout à coup on comprend. Eh bien, je vous redonnerai les années perdues, dit Joël, chapitre 2, verset 25. Même si vous avez perdu du temps, le Seigneur dit, je vous les redonnerai, si vous avez compris. Mais comprenez. J'arrivais à Tel Aviv, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kébar, comme dans le chapitre 1, c'était tout près qu'il était, tout près de ses exilés quand il a eu sa vision, mais maintenant il est mis en présence même des exilés, dans le lieu où il se trouvait. Là, je restais 7 jours stupéfait au milieu d'eux. Mais pourquoi ? Parce qu'il est tellement impressionné par la vision qu'il a, tout lui devient intérieur, la parole est en lui. Et quand il se trouve en face de ces gens et qu'il voit ces têtes et qu'il voit ce public, mais mes amis, quelquefois l'on se dit, comme on voudrait partir. Quand on se trouve en face de gens qui sont venus même dans une conférence avec toute espèce de pensées déjà, qui ont des pensées bien arrêtées, qui sont prêts à épier tout ce qui pourrait être dit pour contredire, où on sent une opposition, et surtout c'est quelquefois chez des gens religieux, eh bien, on comprend que devant ce public, devant ces tâches qu'il a, il reste d'abord stupéfait et silencieux pendant 7 jours. Ça fait penser aux amis de Job qui, avant de commencer leur discours, sont dans le silence pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc il ne commence pas avant que le Seigneur le lui montre. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Alors vous avez l'histoire de la sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu n'avertis pas le méchant, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang. Vous avez le même chapitre, le même thème qui est traité au chapitre 33e. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra.
Vous voyez, le Seigneur ne peut pas admettre qu'un des siens, qu'un juste dévie. Et il ne le permettra pas. C'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui sont même retranchés. Parce qu'il y a un péché qui mène à la mort. Je ne dis pas qu'on perd son salut. Je crois qu'on ne perd pas son salut. Mais on perd notre couronne. On perd notre témoignage. Si, étant juste, on se dit, oh ben moi, j'ai vécu tant d'années dans le bon chemin, maintenant je peux me permettre ceci ou je peux me permettre cela. Eh bien, c'est faux. Je ne vous dis pas que vous aurez perdu votre salut, mais le Seigneur ne tolérera pas cela. Il y aura un jugement d'une manière ou d'une autre. Et ce jugement peut aller jusqu'à la mort du corps. Il mourra, lui, dans son péché. On ne parlera plus de sa justice qu'il a pratiquée et je redemanderai son sang. Vous savez, c'est quelque chose de terrible de mourir dans son péché, sans l'avoir réellement confessé. Je pourrais vous raconter des cas que j'ai connus. Et Jésus disait, si vous ne vous convertissez pas réellement, vous mourrez dans votre péché. Voyez-vous, il ne faut pas seulement avoir des actions justes. Il faut être devenu juste. Mais dans le Seigneur, nous sommes justifiés. Et maintenant, nous vivons en sachant qu'il est là, notre représentant, et le garant de notre salut. Ce n'est pas ma fidélité qui me sauve, c'est sa fidélité à lui. Mais moi, j'ai une responsabilité. Et je ne suis pas simplement sauvé pour ne pas aller en enfer, je suis sauvé pour glorifier le Seigneur. Et le Seigneur voudrait me donner une tâche, une responsabilité dans son royaume. Il ne voudrait pas que je sois juste sauvé. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra. Vous voyez, nous devons nous avertir les uns les autres. Parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Et il faut avoir cet amour. C'est pas se juger les uns les autres, mais c'est s'avertir les uns les autres. La plupart du temps, on laisse les gens glisser. On sait qu'ils glissent. Puis une fois qu'ils sont tapés par terre, on arrive et on leur donne le dernier coup de pique. C'est pas ça? Alors qu'avant, on les voyait glisser, on aurait dû les avertir. Mais écoute, est-ce que tu penses que tu es dans le bon chemin? Je n'ai pas à te juger, mais est-ce que tu penses que c'est juste ce que tu es en train de faire? Mais non, on ne dit rien. Puis après, on dit, oh, je le savais bien. J'ai toujours pensé. Vous avez toujours pensé? Vous n'y avez rien dit? Vous ne l'avez pas averti? C'est des fois dur de reprendre nos frères. Il est dit qu'on doit se reprendre même publiquement. Mais voyez-vous, quand on reprend publiquement, il n'y a pas besoin de nommer les gens. Les gens se rendent bien compte quand la parole les touche. Eh bien, il n'y a jamais eu d'amertume quand réellement on a pris la parole du Seigneur. Cette personne, elle m'aime vraiment parce qu'elle voudrait que je ne retombe pas dans la même habitude ou dans la même faute. Nous devons nous avertir les uns les autres dans l'amour, parce que sans ça, nous n'aurons pas réellement aimé. Verset 22. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit, oh, que je l'ai aimé, ce verset. J'avais 15 ans, oui. Lève-toi, va dans la vallée, parce que j'avais étudié les vallées à travers l'Écriture, il y a la vallée de l'ombre de la mort, psaume 23, il y a la vallée de larmes, la vallée de Baca, qui est dans le psaume 84, il y a la vallée d'Accor, la vallée du trouble, où Achan est mort, cette vallée qui nous sera donnée comme une porte d'espérance dans le livre d'Osée au chapitre 2. Lève-toi, sors dans la vallée. La vallée, c'est souvent une épreuve, et vous descendez dans la vallée. Et là, je te parlerai. Vous allez me dire, mais voilà, on était quand même bien ici, malgré toutes les... Je
choses pénibles que vous avez dites. On était quand même heureux ici, puis maintenant on va partir. Puis vous serez dans la vallée, hein? Vous allez quitter la retraite, vous allez quitter l'ermitage, chers ermites, et vous allez dans la vallée. Qu'est-ce qu'il y a dans la vallée, dans votre vallée? Qu'est-ce qui vous attend? Hein? Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Je me levais et j'allais dans la vallée, et voici la gloire de l'Éternel y apparut telle que je l'avais vue près du fleuve de Kébar. Alors j'ai tombé sur ma face. La gloire, elle n'est pas seulement ici. La gloire, elle est là où le Seigneur vous attend, dans votre vallée, là où vous avez à rendre un témoignage. Le Seigneur vous attend. Il est là. Et c'est la même gloire, la même merveille qui va vous plonger dans l'adoration. Et l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Vous voyez, quand on parle des effusions de l'Esprit, c'est à plusieurs reprises, quand vous lisez les Actes, qu'il est dit que, et Pierre étant rempli de l'Esprit, ou Paul rempli de l'Esprit, dit, il y a un renouvellement, c'est pas le Saint-Esprit qui revient, mais il y a un renouvellement. Le Saint-Esprit, nous n'avons pas à le faire descendre, il est descendu, il est dans l'Église. Et c'est à nous d'en être remplis, de le laisser nous remplir, c'est à nous de lui donner toutes les possibilités en nous, de lui donner les clés de toute la maison humaine, les clés de notre esprit, de notre âme, de notre corps. Alors, l'Esprit entre en moi et me fit tenir sur mes pieds. Cette force, elle est là, il nous renouvelle sa force jour après jour. Et l'Esprit me parla et me dit, eh bien voilà, on arrive à la fin. Qu'est-ce qu'il vous dit? Va t'enfermer dans ta maison. C'est justement ce que vous aviez peur. Je retourne à la maison. Mais oui, va t'enfermer dans ta maison. Le Seigneur sera aussi là. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a poussé à vous dire cela, mais je pense que c'est bien. Ce n'est pas nécessaire de t'en parler, de cette retraite. Allez dans votre maison. Nourris de ce que le Seigneur vous a donné. Allez dans votre maison. Fils d'homme, voici on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. Peut-être que ce n'est pas immédiatement que vous devez parler. Vous devez d'abord régler certaines questions, régler certaines choses. Et le Seigneur vous met comme certaines entraves avant que vous puissiez aller plus loin. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille rebelle. Ne partez pas en disant, ben maintenant, j'ai entendu des choses, je saurais que leur dire aux autres. Je serai capable maintenant de les reprendre et de leur montrer ce qui ne va pas chez eux. Et dans notre église, dans notre communauté. Ah, misère. Misère, c'est pas ça. C'est pas ça. Restez d'abord muet. Laissez le Seigneur travailler en vous. Parce que vous savez, c'est quand même formidable d'être muet. Même si ça a pour cause une certaine incrédulité. Vous savez qui a été muet? Zacharie, hein, on va en parler, puisqu'on fête Noël bientôt. Alors on reparle de notre vieux Zacharie qui avait cessé de prier pour avoir un enfant depuis longtemps. Sa vieille était trop vieille. Alors, sauver Élisabeth. On ne priait plus pour ça. Puis tout à coup, voilà l'ange, c'est Gabriel. Puis il apprend qu'il va avoir un fils. Ses prières sont exaucées, mais il y a si longtemps qu'on ne priait plus. Et oui, mais ça a été enregistré. Et c'est maintenant, c'est l'heure. C'est l'heure. Avec ma vieille. Et oui, c'est l'heure. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Sarah. Rien d'étonnant pour moi. C'est quand même fantastique. Eh bien, puisque tu n'as pas cru que tu vas être muet, voilà notre pauvre Zacharie pendant 9 mois. Il est muet. Quand on m'a opéré des cordes vocales, j'ai été un tout petit peu, ça n'a pas été très longtemps, mais ce que c'est que d'être muet. Mais regardez Zacharie, après les 9 mois, qu'est-ce qu'il a fait? Le Bénédictus. Ça a jailli de son cœur. Après 9 mois de silence, eh bien, quand on lui a demandé quel nom donner vraiment à Jean, après ces 9 mois de muet, il a prononcé le Bénédictus comme Marie a prononcé le Magnificat. C'est quelque chose de merveilleux. Alors, quand nous devons être muets, soyons muets. Mais quand nous devons parler, eh bien, pardon. Mais je pense que Zacharie a repassé dans son cœur toutes ces choses qu'il a pensées, qu'il a pu s'humilier, et qu'il a compris qu'il y avait d'abord de la rébellion chez lui. Si les autres étaient rebelles, lui avait été rebelle. Et c'est toujours mon péché que je dois voir en premier, n'est-ce pas? Et pas l'appeler au moins. Mon péché mignon. Vous entendez tellement cela sur les ondes, les médias. Les gens vous parlent avec un sourire ineffable de leur péché mignon. Ils sont tellement mignons eux-mêmes. Et leur péché mignon, 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 mignon. Et puis on le caresse, le péché mignon. Si on l'aime tellement, on l'adore, le péché mignon. Puis on voudrait que Dieu nous bénisse. Vous voyez, il faut que des écailles nous tombent les yeux. Bien, vous voyez, mes amis, j'essaye pas de construire un message. Je vous fais une méditation tout à fait genre que j'ai connue dans ma tendre enfance. On lisait verset après verset, et puis, on cherchait à comprendre. Puis mon père, il nous demandait, à nous qui étions petits, on était 4 en famille, on savait qu'il allait nous poser des questions pour savoir si on allait écouter, parce qu'on peut être dans la chambre de ses parents, à la lecture familiale, et être tout ailleurs. Comme un jeune me disait un jour, moi quand j'entre dans une salle de réunion, je regarde l'heure, puis je me dis dans 1 heure, ça ira mieux. Bon, et puis je fais un match de football. Et puis, mais pour le père, c'est un cher enfant, il vient à la réunion, il vient avec nous. Mais où sont ses pensées pendant qu'il est là sur le banc à user son fond de culotte? Où est-il? Et c'est cela, mes amis, que nous devons comprendre. Alors, est-ce que nous avons été là? Est-ce que nous avons écouté? Est-ce que nous avons entendu? Alors, nous allons maintenant avoir un moment de recueillement. Je sais que notre bien-aimé André va nous donner encore quelques morceaux de musique quand nous serons bien recueillis, parce que nous allons, peut-être que même si nous ne pouvons pas, pour toutes sortes de raisons, vous allez vous-même comprendre, arriver à la Sainte Cène, ce que nous avons toujours fait habituellement, mais je crois que aujourd'hui, et c'est à cause de moi, c'est pour moi-même d'abord, c'est bon que nous nous disions, on veut être mieux préparé pour, si le Seigneur nous donne, dans nos communautés ou respectives ou quand il nous donnera de nous retrouver, pour que on ne puisse plus jamais faire cela d'une façon légère.
sans avoir réglé aussi certaines choses, et puis réglé aussi entre frères nos différends. Je dis toujours ceux qui communient une fois par jour, et ça m'est arrivé de communier une fois par jour. Eh bien, ceux qui communient tous les jours, leurs différends ne peuvent pas durer plus d'un jour. Hein? Ceux qui communient une fois par semaine, leurs différends ne devraient pas durer plus d'une semaine. Et une fois par mois, plus d'un mois. Puis ça dure depuis quand, souvent. Il y a une puissance réelle dans ce fait de se rassembler et de rompre le pain. Mais il faut savoir ce qu'on met dans cette communion. Et je pense que le Seigneur peut spirituellement, même ici, nous donner plus une. Alors que personne ne part d'ici en disant, bon voilà, on n'a pas pu communier parce que ceci, parce que ça, parce qu'il y avait ceci ou il y avait cela, c'est pas vrai. Parce qu'alors on aurait pu simplement faire un triage et aller de l'un à l'autre. Pourquoi est-ce que dans l'église romaine, il y avait le confessionnal avant la communion, hein? C'est parce que on voulait mettre certaines choses en règle, en ordre. Tout n'était pas faux dans un certain sens. Du reste, dans la confession de foi de Westminster que cite Karl Barth, il dit que, justement, avant de communier, il doit y avoir ce moment d'humiliation réelle pour que nous soyons là en communion avec le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pas quelque chose qui peut se faire comme ça, n'importe comment. Mais d'un autre côté, alors, c'est pas parce qu'il y a une grande responsabilité que nous devons dire, moi je communie le moins souvent possible. C'est le contraire. Et c'est une chose à laquelle on ne peut pas s'habituer. Et c'est une bénédiction et c'est un privilège. Et pour pouvoir manifester cette unité du corps de Christ, bien rien ne devrait nous coûter. Quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille rebelle. Donc, il y aura peut-être d'abord des gens qui viendront chez vous, et vous aurez l'occasion de leur parler. Ce n'est pas à vous qui nécessairement irez d'abord parce que vous voulez absolument évangéliser et vous prenez n'importe quel moyen pour vous introduire, peut-être un sondage, puisque c'est la coutume maintenant. Je viens pour un sondage. Qu'est-ce que vous pensez au sujet de Dieu? Qu'est-ce que vous pensez? Qui vous envoie? Oh, c'est un sondage scientifique de... petit menteur de chrétien. On veut servir le Seigneur avec n'importe quel moyen. Il y en a un qui s'est fait mettre à la porte de l'université de Montréal, drôlement, manu militari, parce qu'on a bien réalisé que c'était piégé, cela. On veut évangéliser à tout prix. On veut atteindre à tout prix les âmes. Soyez ce que vous devez être, et on vous posera des questions. On nous posera des questions. Soyez toujours prêts à répondre avec douceur et crainte à quiconque vous demandera la raison de l'espérance qui est en vous. Alors vous allez me dire, mais alors, vous nous découragez pour notre témoignage? Sinon, je vous encourage. Si vous avez un témoignage, vous aurez l'occasion de parler parce qu'on vous questionnera. Et vous n'aurez pas besoin de toujours questionner. Et vous aurez des réponses qui viennent du Seigneur. Et vous saurez qu'elles sont vraies parce que vous les avez expérimentées dans vos cœurs. Et vous pourrez parler avec